Alors bonsoir à tout le monde, nous serons dans Matthieu chapitre 5, le verset 8 ce soir. Nous continuons avec cette série de messages sur les béatitudes, ces proclamations de bonnes nouvelles et de bénédictions que Jésus fait pour les membres du peuple d'Israël qui pensaient très souvent ne pas être ceux qui étaient bénis par Dieu, mais qui avec la venue du royaume en Jésus-Christ se trouvent maintenant en position d'être béni par Dieu. La semaine passée, avec Brady, hein, vous avez vu Matthieu chapitre 5, le verset 7, où Jésus a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et donc nous arrivons au verset 8, où Jésus dit maintenant, c'est l'avant-dernière béatitude ici, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » J'aimerais qu'on commence simplement en réfléchissant simplement au sens des différents mots que Jésus utilise ici, même s'ils ne sont pas particulièrement compliqués. J'aimerais quand même clarifier, parce que c'est important dans notre culture, quand Jésus ou quand quelqu'un dans la Bible parle du cœur, nous avons tendance à penser immédiatement émotion, parce qu'on dit de tout son cœur veut dire avec tous les sentiments. Et il faut clarifier que dans la pensée juive et la pensée de l'époque, le cœur n'avait pas le même sens que pour nous. Quand on dit notre cœur, en général, on ne veut pas parler de l'organe qui fait battre, donc le sang fait circuler le sang. On ne parle pas non plus du siège des sentiments, mais plutôt de l'être intérieur. Le cœur, c'est le centre dans la personne de la volonté, des pensées, des motivations et aussi des sentiments. Mais cela ne fait qu'une petite partie de vraiment de notre être intérieur. Et certains disent donc que c'est là où s'articule la vie spirituelle et la vie morale de l'individu. Les pensées, la volonté, les motivations, les sentiments aussi, cet être intérieur qui nous sommes avec notre conscience, nos réflexions. Et donc quand on dit d'avoir le cœur pur, c'est pas simplement d'avoir des bons sentiments tout le temps, même si on souhaite ces choses, bien entendu, mais c'est vraiment quelque chose de plus profond, c'est-à-dire l'être intérieur qui est pur. En ce qui concerne cette expression pure, littéralement, le terme veut dire propre. Et c'est un mot qui est très souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler pour les objets de tous les jours, qui peuvent être propres, qui peuvent être nettoyés, mais aussi pour décrire les métaux précieux, par exemple de l'or pur. Et aussi pour parler des règles cérémoniales dans le culte de l'Ancien Testament. Et si vous aimez le Lévitique, bon, on va parler beaucoup de choses qui sont pures et aussi impures. Et dans les psaumes, comme on le verra par la suite, on trouvera aussi cette notion de pureté au niveau du cœur aussi, comme le fait Jésus. Et donc Jésus dit, pour ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et je crois qu'il faut voir ici plus que simplement l'idée que ceux qui ont le cœur pur, bon, quand ils vont mourir, ils iront au ciel et ils verront Dieu, même si cela fait partie de l'espérance chrétienne. Dans l'Ancien Testament, l'idée de voir Dieu était un thème très important. Juste un exemple, c'est dans le psaume 11, au verset 7, où nous lisons ceci: Car l'Éternel est juste, il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. C'est-à-dire, l'homme droit qui fait la justice voit Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on parle parfois de voir littéralement Dieu. Et la réponse à cela, c'est que c'est impossible. Parce que si on voit Dieu, lui qui est parfait dans toute sa sainteté, ça va détruire l'homme ou la femme pécheresse ou pécheur qui se trouve devant lui. Mais voir Dieu dans le contexte des psaumes ou des prophètes et de l'Ancien Testament, quand c'était le désir des gens, c'était ce désir d'être dans la présence de Dieu. Souvent, quand on allait au temple ou au tabernacle pour adorer Dieu. Mais de voir Dieu, c'est être devant lui dans sa présence, avec l'espérance d'un jour, bien sûr, de voir Dieu face à face. Mais on espérait déjà pour cette vie. Jésus va parler de cette notion de voir Dieu dans le sens de connaître Dieu tel qu'il est, d'avoir une relation avec lui où Dieu se fait connaître. Et dans Jean chapitre 14, le verset 7, Jésus dit à Philippe, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et donc, voir Dieu, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est connaître Dieu. Et bien entendu, et ça c'est l'espérance future dont parle aussi Jésus ici, c'est l'idée d'être avec Dieu dans son royaume et d'être avec Dieu face à face à la résurrection. Et si aujourd'hui, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, nous pouvons connaître Dieu, et c'est une manière de le voir, nous sommes dans sa présence, et c'est aussi une manière de le voir, il y a une plénitude de la présence de Dieu. Nous allons vraiment être parfaitement dans sa présence, sans barrière, sans intermédiaire, un jour. Et ça, c'est notre espérance qui est là. Et donc, voilà cette notion. Jésus qui parle de ceux qui ont ce cœur pur, un mot lourd de sens, et qui vont voir Dieu un jour. Et pour moi, c'était intéressant, juste en lisant un peu les textes, à quel point dans l'enseignement de Jésus, surtout dans l'évangile selon Matthieu, le cœur et les yeux sont liés. Parce que Jésus dit ici, ce qui est dans le cœur, bon, ça affecte ce qu'on va voir un jour. Et Jésus est toujours en train de faire le lien. Il dit que celui qui a le cœur pur va voir Dieu. Mais plus tard, on verra dans le sermon sur la montagne, Jésus dit que ce qu'on regarde, pour convoiter en l'occurrence, peut mener au péché et à la corruption dans le cœur. Il parle de regarder une femme pour la convoiter, ou de regarder les richesses dans le monde, et comment cela affecte et transforme notre cœur. Jésus dira que ceux qui ont le cœur impur, ce sont des aveugles. Jésus dira que ceux qui sont des hypocrites, qui est l'inverse d'avoir le cœur pur, agissent pour être vus par les hommes. Que les cœurs impurs, que les cœurs hypocrites agissent pour être vus. Et bien sûr, nous pensons à ce passage dans l'Ancien Testament, où Dieu s'adresse au prophète Samuel, où il dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Et n'est-ce pas intéressant de penser que Dieu regarde le cœur, mais celui qui a un cœur pur pourra regarder Dieu, qui a l'espérance de cette réciprocité. Dieu voit le cœur de tout le monde, mais ceux qui ont un cœur pur pourront voir Dieu un jour. Je dis ça un peu par parenthèse, parce que c'est juste un thème fascinant que nous voyons, mais je crois que c'est une parenthèse importante. C'est que l'usage de nos yeux transforme nos cœurs. Et l'état de notre cœur définit comment nous voyons le monde. Et Jésus insiste sans cesse sur cette réalité, que ce que nous laissons entrer dans notre pensée, dans notre esprit, pas avec nos yeux, cela va changer qui nous sommes intérieurement. Dans Matthieu 6, versets 22 et 23, Jésus dit ceci, que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ? Là, Jésus parle des gens qui ont un cœur qui cherche l'argent, qui cherche les richesses et qui n'ont pas un cœur qui désire Dieu. Et bien entendu, ça marche dans l'autre sens. Et Jésus parle de cela dans Matthieu 5, verset 8. Que l'état de notre cœur actuellement va changer comment on voit le monde. Ceux qui ont un cœur pour Dieu vont voir Dieu dans son royaume, mais vont voir Dieu à l'œuvre en la personne de Christ. Ceux qui ont un cœur mauvais et hypocrite et idolâtre, ils ne vont pas voir Dieu à l'œuvre en Jésus-Christ. Ils ne vont pas reconnaître le Messie, mais plutôt ils vont avoir un cœur fermé et des yeux qui sont aveugles. Et il y a un lien important qui est là, surtout dans une culture aujourd'hui qui est une culture ultra-visuelle, n'est-ce pas ? On vit dans le monde audiovisuel. Tout le monde sait lire et on peut consommer des messages de cette manière. Nous sommes saturés d'images et de différentes manières qu'on nous communique ce qu'on doit désirer, ce qu'on doit penser dans le monde. Et nous avons une responsabilité dans comment nous utilisons nos yeux pour former notre cœur. Bon, parenthèse fermée, mais je crois que c'est quelque chose à souligner ici. Bon, nous lisons cela et nous voulons poser la question, bon, qui sont ceux qui ont le cœur pur ? Parce que nous voulons voir Dieu, n'est-ce pas ? Ça devrait être notre désir. Et pour nous, ce qui nous frappe le plus, c'est cette idée donc de voir Dieu. Mais un Israélite entend ici parler d'un cœur pur. Et la pureté était si importante pour les Juifs, surtout au premier siècle, dans le contexte galiléen et israélite où était Jésus. La pureté était un thème important dans la culture de l'époque et un élément essentiel de la religion juive. Dans son ministère, Jésus lui-même était opposé à ceux qui cherchaient la pureté cérémoniale. Vous savez, il y a énormément de conflits qui se développent entre Jésus et les groupes ultra purs au niveau rituel, surtout les pharisiens. Et ces gens-là, pas tous, n'est-ce pas, mais un grand nombre d'entre eux, s'imaginaient que puisqu'ils cherchaient une pureté religieuse, ils avaient aussi un cœur qui plaisait à Dieu. Et il y avait des lois dans l'Ancien Testament qui dictaient ce qu'on pouvait manger, consommer, ce qu'on pouvait toucher si on voulait pouvoir adorer Dieu au tabernacle ou au temple plus tard. Et il y avait des règles de pureté cérémoniale qui étaient importantes. Mais il y avait eu un développement religieux à l'époque où on avait mis cette pureté cérémoniale au centre de toute la vie religieuse et au centre de la relation avec Dieu. Et nous pensons bien entendu aux pharisiens, n'est-ce pas, qui cherchaient la pureté rituelle avec passion, hein, qui se purifiaient assidûment les mains. Jésus parle du fait qu'il filtre les boissons pour éviter d'avaler même un moucheron qui serait un animal impur, qui refuse de manger avec les Israélites qui sont considérés comme impurs, et bien sûr aucun païen, qui cherche à rester pur en faisant attention à ce qu'ils mangent, avec ceux avec qui ils mangent, ce qu'ils touchent. Chaque aspect de leur vie, chaque geste est dicté par cette recherche d'une pureté extérieure, d'une pureté rituelle. Et les gens moins spirituels que les pharisiens voyaient cela et ils admiraient ces gens. Ils admiraient leur fidélité. On ne les regardait pas en se disant, bon, quels gens méprisables, ces gens tellement religieux. C'était pas comme aujourd'hui où plus on est religieux, moins on est respecté dans la société. C'était l'inverse. Et donc, les gens du petit peuple qui n'avaient pas le temps ou l'énergie pour se donner tellement à cette recherche de la pureté, ils regardaient les pharisiens et d'autres groupes qui étaient encore plus extrêmes qu'eux, et disaient, voilà des gens qui plaisent à Dieu. Voilà des gens qui ont une place assurée dans le royaume. Et ils se disaient, nous ne sommes pas à la hauteur. Et on s'imaginait que c'était ce genre de personnes que Dieu approuvait. Il y avait même des juifs, donc plus préoccupés par la pureté rituelle, qui s'étaient carrément séparés entièrement de la société. Ils étaient allés vivre dans le désert pour ne pas entrer en contact du tout avec des gens qui risquaient d'être impurs. Et commençaient la journée avec des purifications, pas juste des mains, mais de tout le corps. Et puis tout ce qu'ils faisaient était ordonné autour de cette pureté rituelle. Et de nouveau, ces gens étaient admirés. Voilà les gens que Dieu approuve. Mais en disant cela, et en regardant les gens, et en disant cela, les gens se trompaient, en réalité. Parce qu'ils avaient oublié ce qui est fondamental. En obéissant quand même à des règles que Dieu avait données, ils avaient oublié l'essentiel. Que Dieu regarde le cœur, et non pas le ritualisme religieux, pour voir qui il approuve. Jésus accuse les pharisiens de 100 ans, d'ailleurs, de ressembler à des sépulcres, à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Il dit, bon, quelle belle pureté externe et quelle pourriture et impureté interne. Ça, c'est dans Matthieu 23, le verset 27. Et donc, premièrement, pour comprendre cette béatitude de Jésus, il faut voir qu'il est en train de dire que Dieu approuve ceux qui recherchent une pureté intérieure, une pureté des motivations, une pureté morale, une pureté de la pensée, plutôt qu'une pureté uniquement ou simplement rituelle, qui était d'ailleurs hors d'atteinte, au niveau auquel c'était pratiqué à l'époque, qui était hors d'atteinte pour les pauvres, pour les gens avec peu d'éducation, pour le petit peuple. Et ce message n'est pas nouveau, mais c'était un message qui était trop souvent oublié. Dans le psaume 24, les versets 3 à 5, nous avons cette prière ou ce cantique qui dit ceci. « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. » Pour le psalmiste ici, quand on dit d'aller à la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire aller à Jérusalem pour louer Dieu au temple. Et dit, c'est qui est le candidat de choix pour aller à la rencontre de Dieu au temple? Il dit, c'est la personne qui a les mains innocentes, c'est-à-dire un comportement juste et un cœur qui est pur. Et c'est un rejet de cette idée que c'est simplement les bonnes pratiques religieuses ou une pureté externe qui est importante pour Dieu. Dieu regarde le cœur. Et c'est cela qu'il recherche. Et donc, je crois que nous comprenons que Jésus annonce une bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur pur, plutôt que ceux qui sont uniquement pur rituellement. On pouvait être pur rituellement et pur de cœur. C'était possible. Le problème, c'est que trop souvent, la pureté rituelle était devenue presque une idole et on oubliait le reste par préoccupation de ces choses-là. Mais selon Dieu, alors posons la question, si on veut être pur intérieurement, qu'est-ce que cela signifie? Et le psaume 24 nous aide déjà considérablement, n'est-ce pas? C'est les gens qui ne se livrent pas aux choses vaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ne pas avoir un cœur partagé. Dans l'Israël de l'Ancien Testament, les choses vaines, la plupart du temps, c'était les idoles. Il y avait des pratiques idolâtres énormes et presque partout dans la vie d'Israël. Et on parle des idoles comme des choses vaines, qui n'ont aucune puissance, qui ne peuvent pas changer la vie de ceux qui les adorent et qui ne mènent à rien. Et donc, on pense peut-être aux idoles d'Israël. Mais ça peut être plus large que ça. Une personne qui recherche des choses vaines, c'est quelqu'un qui recherche dans sa vie et pour donner un sens, pour construire sa vie, des choses qui ne vont pas durer, qui ne viennent pas de Dieu. Les idoles de la vie, ça peut être l'argent, la sécurité, l'amour, les relations, toutes des choses qui sont des bénédictions de Dieu, mais qui ne durent pas, comme la recherche de Dieu et de son royaume. Une personne avec un cœur pur vit pour ce qui dure, vit pour ce qui a de la valeur éternelle. Une personne qui a le cœur pur vit pour Dieu et recherche la présence de Dieu et sa volonté. Et le psalmiste mentionne aussi l'intégrité. Quelqu'un qui garde sa parole. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un qui aime la vérité. Et voilà une première description de quelqu'un qui a un cœur pur, qui n'a pas un cœur partagé, mais qui cherche Dieu de tout son être. Et quelqu'un qui est rempli d'intégrité, d'amour, de la vérité. Et donc, il y a cela. Et Jésus, dans la suite du sermon sur la montagne, il va nous donner des contre-exemples. Pas de cœur pur, mais de cœur impur. Et parfois, les contre-exemples nous aident plus à comprendre la chose. De nombreux enseignements de Jésus nous aident à voir ce qu'est un cœur pur. Dans le sermon sur la montagne, toujours au chapitre 5, dans Matthieu 5, verset 28, nous avons une description d'un cœur impur. Où Jésus dit, « Je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Là, Jésus ne parle pas des actes extérieurs, des actes avec le cœur, mais ce qui se passe dans notre être intérieur, dans la pensée. Et là, il parle de convoitise sexuelle. La convoitise des biens matériels aussi affecte le cœur. Dans Matthieu 6, versets 20 et 21, Jésus dit « Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et là, c'est de nouveau cette notion d'avoir un cœur qui désire une seule chose. Et là, Jésus donne des contre-exemples, d'accord, de cœurs qui ne sont pas purs devant Dieu. C'est ceux qui sont remplis de convoitises sexuelles ou convoitises de l'argent et des richesses matérielles, qui ne cherchent pas ce que Dieu veut, mais cherchent les plaisirs du monde. Jésus ira même plus loin, plus tard dans ses conflits avec les pharisiens, justement. Et en parlant de pureté, il va décrire pas vraiment un cœur impur, mais un cœur qui rend impur. Et voici ce que dit Jésus dans Matthieu 15, les versets 18 à 20. Matthieu 15, 18 à 20. « Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Et de nouveau, Jésus veut qu'on comprenne, c'est ce qui nous sommes à l'intérieur, nos motivations, nos pensées, qui débouchent ensuite par des actions envers notre prochain. Voilà ce qui est le siège de notre cœur et de ce qui est pur. Et donc, Jésus donne des exemples, mais aussi des contre-exemples. Et un cœur qui médite le mal, qui est plein de haine, qui désire la souffrance de son prochain. Un cœur qui ne se préoccupe pas de la volonté de Dieu, qui cherche son propre intérêt. Bon, voilà un cœur impur, selon Jésus. Et en contraste, un cœur pur rejette toutes ces choses. Et celui ou celle qui a un cœur pur désire le bien, désire et dit la vérité, médite le bien et la parole de Dieu, aime Dieu de tout son cœur et aime son prochain aussi. Et un cœur pur cherche à plaire à Dieu. Et cela nous amène à un dernier aspect très important d'un cœur pur. Jésus enseigne aussi qu'un cœur pur et sincère agit sans hypocrisie. Vous savez, c'est possible de faire le bien, mais de ne pas avoir un cœur pur. Pour Jésus, il s'agit de faire le bien, pas de manière intéressée ou pour être vu par les autres. Et Jésus donne dans le Sermon sur la montagne trois avertissements contre ceux qui font le bien pour être vus, c'est-à-dire pas avec un cœur pur. Dans Matthieu 6, les versets 1 et 2, Jésus dira tout simplement « Gardez-vous de pratiquer votre justice, c'est-à-dire votre bon comportement, vos bonnes œuvres, devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Et Jésus décrit donc ceux qui donnent aux pauvres, mais qui le font pour leur propre gloire. Et cela n'est pas un cœur pur. Et par la suite, il décrira ceux qui prient pour être vus par les autres, ceux qui jeûnent aussi afin d'être vus par les hommes. Et un cœur pur fait le bien aussi, mais pas pour être vu par les autres, mais pour être vu par Dieu et pour lui plaire uniquement. Un cœur pur n'a pas peur de faire du bien en secret pour les autres. Pour nous méditons ce que ça signifie d'avoir un cœur pur, parce que nous désirons voir Dieu. Et je crois que nous avons parfois tendance à lire ce passage comme une mauvaise nouvelle. Pas parce qu'un cœur pur est indésirable, parce que nous ne voulons pas voir Dieu, mais parce que nous regardons notre propre être, nos propres pensées, notre propre cœur, et nous constatons que trop souvent, nous ne sommes pas à la hauteur de tout ce que Jésus décrit. Nous sommes trop partagés entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Trop souvent, nous sommes préoccupés par les convoitises, les choses éphémères de la vie, qui sont sans valeur. Trop souvent, nous nous réjouissons lorsque les autres voient nos bonnes œuvres ou nous approuvent. Et nous voyons cette lutte, même si nous désirons bien faire, cette lutte, même au niveau de notre volonté intérieure. Et nous nous posons la question, bon, est-ce que mon cœur est assez pur pour voir Dieu? Et la lutte avec le péché, la tentation, l'hypocrisie peut nous pousser à désespérer. Et donc, c'est important de rappeler que Jésus ici proclame une bonne nouvelle. Il ne proclame pas une mauvaise nouvelle pour nous. Et quelle est la bonne nouvelle? Bon, c'est Jésus ne parle pas à n'importe qui. Il parle aux gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent plaire à Dieu parce qu'ils n'ont pas cette pureté religieuse qui est suffisante. Et Jésus leur rappelle, non, Dieu regarde votre cœur, pas simplement ses actes externes, même si c'est Dieu lui-même qui avait donné la loi. Jésus ici s'adresse à des gens qui désirent Dieu, sinon ils n'auraient pas suivi Jésus, mais qui ne croient pas que le royaume de Dieu est pour eux, ou en tout cas qu'ils seront les derniers du royaume. Et une des raisons, c'est parce qu'ils croient que Dieu est focalisé sur le rituel, sur ce qui est superficiel et externe. Et Jésus doit leur rappeler la bonne nouvelle que Dieu regarde le cœur. Un peu comme Dieu a rappelé au prophète Samuel, dans 1 Samuel 16, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Dieu s'intéresse à notre cœur. Vous savez, il n'est pas vraiment impressionné par notre intelligence ou le nombre de nos bonnes œuvres. Ces choses ont seulement de la valeur pour Dieu si notre volonté, notre pensée est tournée vers Dieu. Et c'est une bonne nouvelle que Dieu regarde le cœur. Imaginez que pour Dieu, c'était égal nos motivations, nos pensées, et que tout ce qui comptait, c'était notre exactitude religieuse. Si on fait les bons gestes au culte, si on prie le bon nombre de fois pendant la semaine, si on dit les bonnes paroles, alors Dieu s'en fiche du reste. Est-ce que ça, ce serait un Dieu juste et bon? Bon, non, pas du tout. Pour Dieu, notre relation avec lui a toujours la priorité, même si Dieu a des demandes au niveau de comment nous venons vers lui. Mais sa justice est basée, la volonté de Dieu pour nous est basée sur cette relation avec notre cœur. Mais une autre bonne nouvelle, et encore plus importante, c'est que Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », mais il est aussi celui qui nous offre un cœur pur. Si cela ne dépendait que de nous, nous aurions raison de désespérer. Mais la bonne nouvelle est que Dieu en Jésus-Christ est celui qui accorde un cœur pur. Juste après cette prédication, Jésus va rencontrer un lépreux. Et quand Jésus guérit les lépreux, Matthieu n'écrit jamais « Jésus guérit un lépreux ». C'est toujours « il le purifie, il le rend pur ». Et un lépreux vient voir Jésus et voici ce qui se passe. C'est dans Matthieu 8, versets 2 et 3. « Un lépreux survint et se prosterna devant Jésus en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ce n'est pas un hasard que nous avons cette histoire dans l'Évangile. C'est un signe de ce pourquoi Jésus est venu. Pas juste pour accorder un soutien médical aux lépreux, mais pour nous rendre purs. Et comprenons bien. La plainte, la demande du lépreux, c'est « rends-moi pur, si tu le veux ». Et la réponse de Jésus, c'est « je le veux ». Et ça, c'est vrai, pas juste au niveau de la peau, mais au niveau du cœur. Nous pouvons venir à Christ en disant « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et la réponse de Christ, c'est « je le veux ». Et il a le pouvoir de nous purifier. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Parce qu'en cela, nous avons la promesse que nous verrons Dieu. Dans l'Ancien Testament, David, qui a écrit tellement de beaux psaumes, qui était un homme, selon le cœur de Dieu, nous disent les Écritures, il a quand même commis des péchés horribles. Et un des pires péchés, il y avait un adultère et un meurtre et de la corruption et toutes sortes de choses qui se sont passées. Bon, confronté à son péché, il s'est repenti. Et dans le psaume 51, les versets 11 et 12, voici ce que David prie. Il dit « Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Crée en moi un cœur pur. Il ne prie plus comme il a fait peut-être à d'autres moments. « Je suis juste devant toi, Dieu, j'ai un cœur pur. » Non, il dit « Donne-moi un cœur pur, car je ne l'ai pas moi-même. » Et l'apôtre Jean fait le constat dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous pensons qu'un cœur pur dépend seulement de nous, de nos efforts, nous allons désespérer et nous aurions raison de le faire. Mais si nous nous tournons vers Dieu en Jésus-Christ, la promesse, c'est qu'il est fidèle pour nous purifier et pour transformer nos cœurs. Et nous avons la confiance que nous verrons Dieu. Alors que ferons-nous avec ses promesses? Parce que nous avons quand même des choses à faire, sinon Jésus ne serait pas en train de prêcher. Il veut qu'on recherche de tout notre cœur un cœur pur. Qu'allons-nous faire pour rechercher ces choses? J'aimerais proposer juste quelques questions qu'on peut se poser au niveau individuel et puis quelques réalités sur notre cœur pour terminer. Nous pouvons nous poser la question, mais quelles sont mes motivations lorsque je fais le bien? Parce que un jour, nos motivations, pas juste nos œuvres, seront mises en lumière. Ah, pourquoi est-ce que je fais le bien lorsque je le fais? Et notre désir, c'est de le faire pour Dieu, bien entendu. Posons-nous la question, est-ce qu'il m'arrive de faire le bien en secret, sans que quelqu'un d'autre le sache? Posons-nous la question, qui suis-je lorsque je suis seul et personne d'autre ne peut m'observer? Posons-nous la question, est-ce que je me repose dans ma relation avec Dieu, sur mes prestations religieuses ou sur ma relation avec Dieu? Posons-nous la question, qu'est-ce qui préoccupe mes pensées au quotidien? Et posons-nous la question, est-ce que je suis fidèle dans ma vie? Fidèle à mes engagements envers les autres? Fidèle à mon époux ou à mon épouse? Fidèle dans les affaires et dans ce que je dois aux autres? Ce sont des questions qui peuvent nous aider à faire le diagnostic de notre cœur dans cette recherche de pureté. Mais deux choses pour pour nous, hein, de réalité sur le cœur pur. Un cœur pur, premièrement, est motivé par l'amour pour Dieu. Okay. Un cœur pur est motivé par l'amour pour Dieu. Le commencement du travail pour purifier notre cœur, c'est de vouloir aimer Dieu et Christ de plus en plus. Et c'est en l'aimant que nous serons changés, ou plutôt que nous nous ouvrons à la transformation de Dieu. Les actes, les bonnes œuvres sont bonnes, mais ne sont pas suffisantes ni salutaires pour purifier notre cœur. C'est la relation avec Dieu qui nous sauve. Et donc, nous devons grandir dans l'amour pour Dieu. Et je sais que si j'aime Martina, ou si j'aime mes enfants, et je veux vivre cela, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois penser à eux. Je dois passer du temps avec eux. Je dois les écouter. Je dois leur parler. Je dois chercher à leur faire plaisir. Et si ça, c'est ce qui motive ma vie, alors on peut réellement dire, j'aime Martina, j'aime les enfants. Et plus je travaille ces choses dans ma vie, plus je mets d'efforts en ces choses, plus l'amour va grandir. Et de la même manière, nous pouvons aimer Dieu plus en remplissant nos pensées des choses de Dieu, en écoutant sa parole, en cherchant à faire ce qui lui plaît, et aussi en fermant la porte aux choses qui nous éloignent de Dieu. Parce qu'un cœur pur est rempli et motivé par l'amour pour Dieu. Et puis un cœur pur, comme David nous l'a montré, ose se repentir. Nous serons toujours en train de lutter avec le péché jusqu'au retour de Christ. Ça, c'est une réalité. Mais la repentance, c'est la clé pour la pureté. Si nous confessons nos péchés, si nous demandons le pardon de Dieu, Dieu est toujours prêt à pardonner et à purifier. Ça, c'est sa réponse. Et donc, ayant cette vulnérabilité, soyons prêts à la repentance, à demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, nous croyons que si nous avons donné notre vie à Christ, nos cœurs sont purifiés devant Dieu. Mais nous sommes toujours en quelque sorte en cours de purification. La machine est toujours en train de tourner. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous vivons tous les jours avec l'amour de Dieu, en cherchant sa volonté, avec humilité et repentance, Dieu nous promet que nous sommes heureux et que nous le verrons face à face. Un jour, nous le connaîtrons tel qu'il est, comme lui, il nous connaît tel que nous sommes. Et nous serons pleinement et vraiment heureux.